Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour à vous.
Vous venez de passer plusieurs jours en Guadeloupe. À l'issue de vos rencontres, de vos discussions sur place, est-ce que vous avez un plan à proposer pour sortir ce département d'outre-mer de la crise ?
Mais ce sont surtout les élus, les représentants des salariés, les forces vives de Guadeloupe et de Martinique, de Guyane aussi où je suis allé. Mais parlons de Martinique et de Guadeloupe, ce sont surtout eux qui ont un plan. C'est eux qui réclament des investissements de l'État pour pouvoir engager les travaux dont ils ont besoin. Par exemple, les travaux d'assainissement qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. Comme j'ai entendu là-bas, l'eau ne coule pas des robinets. Ils sont obligés d'aller chercher de l'eau avec des bouteilles, des jerrycans pour pouvoir avoir accès à l'eau. Et c'est la République, dit-on. Donc il y a besoin de faire ces travaux d'investissement, il y a besoin aussi de créer des conditions pour que les jeunes là-bas aient accès à un emploi, tous garantis. 60% des jeunes de moins de 30 ans sont au chômage. C'est trois fois le taux ici dans l'Hexagone. Donc investissement, ça veut dire dégager des emplois. Le chômage des jeunes, mais ça veut dire qu'il faut prioriser les emplois pour les jeunes de Martinique, de Guadeloupe. Et puis il y a tous ces investissements à faire pour dépolluer les sols, la mer, qui sont aujourd'hui chargés de chlordécone. Et puis enfin, ils demandent des compensations pour pouvoir s'attaquer à la vie chère. Ils demandent des compensations pour pouvoir faire baisser le prix de l'essence. Ils demandent de pouvoir s'approvisionner en essence auprès des pays d'Amérique latine qui sont juste à côté et qui leur permettraient d'avoir accès à une essence beaucoup moins chère. Aujourd'hui, l'essence, elle vient d'Europe du Nord. Ils sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais même ça, c'est une hérésie même pour le climat.
Le gouvernement a proposé de discuter d'un peu plus d'autonomie. Vous avez considéré que c'était une forme de provocation, cette suggestion. Pourquoi ?
Mais c'est une provocation parce que même si le sujet, nous pouvons en débattre, et certains l'ont posé comme ça, mais c'est une provocation, c'est un contre-feu.
Une manœuvre
pour ne pas parler de l'urgence, la vie chère, le prix de l'essence, le prix du litre de lait, c'est pas l'autonomie qui va la régler. C'est pas en ouvrant un débat sur l'autonomie qu'on va faire baisser le prix du litre de lait et du prix de l'essence demain. Or, c'est bien la question qu'il pose. C'est comment on fait pour que on fasse tout de suite baisser les prix quand on sait que là-bas, c'est plus cher qu'ici. Ouais. Hein, et ici, c'est déjà cher, hein, dans l'Hexagone. Et que là-bas, le taux de pauvreté est plus élevé. Donc imaginez-vous combien c'est encore plus dur pour nos concitoyens guadeloupéens et martiniquais. Ce sont nos concitoyens.
Sur le sujet qui a mis le feu aux poudres, à savoir l'obligation vaccinale, en quittant les Antilles mardi soir, Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, n'a pas exclu une adaptation de l'application de cette loi d'obligation vaccinale. Est-ce que c'est une direction dans laquelle il faut aller ?
Tout le monde la réclame. Tout le monde demande de pouvoir l'adapter parce qu'il faut tenir compte de la situation particulière de cette île, de son histoire, de son rapport à la médecine, qui est différente d'ici l'Hexagone. Je suis de ceux qui disent il faut se faire vacciner. Mais là-bas, il y a une réalité. 30% seulement sont vaccinés. Et chez les soignants, le taux est légèrement plus élevé.
Oui, sensiblement plus élevé, même, je crois. Oui.
En moyenne, mais chez les aides-soignants et les infirmières, le taux reste malheureusement trop bas. Encore assez bas. Du coup, le fait d'appliquer strictement la loi là-bas fait qu'il y a aujourd'hui à peu près 1200 soignants et pompiers qui n'exercent pas et qui n'ont plus de salaire. Enfin, ils n'ont pas touché le salaire de novembre. Ils ne toucheront pas celui de décembre si la loi s'applique de la même manière. On est à la veille des fêtes de Noël. Il y a des familles là-bas que j'ai rencontrées qui ont leurs enfants qui poursuivent leurs études ici dans l'Hexagone ou au Canada. Ça coûte une blinde quand même. Ils n'ont plus les moyens de payer. Comment ils vont faire ? Enfin, c'est ça. C'est le pistolet sur la tempe, hein, cette question des salaires.
Vous proposez, Fabien Roussel, dans le cadre de votre projet présidentiel, l'instauration d'un impôt Covid. De quoi s'agirait-il ? Qu'il paierait ? Est-ce qu'on sait combien il rapporterait ?
Oui, il y a. Nous vivons donc une situation difficile rendue par la crise pandémique et une crise économique aussi à côté. Il y a la vie chère, le pouvoir d'achat donc qui se pose pour beaucoup de nos concitoyens, la pauvreté qui augmente. Nous disons nous que suite à cette pandémie, il y a besoin de beaucoup plus de solidarité et que les riches payent plus forcément que les autres. Ce n'est pas à la classe moyenne, aux classes populaires de payer la reconstruction de la France. Mon impôt Covid, c'est deux choses. C'est un, tripler l'impôt de solidarité sur la fortune, rétablir l'ISF et le tripler.
Pas la version actuelle, l'impôt sur la fortune immobilière.
L'ISF, rétablir l'ISF et le tripler. L'ISF, c'était 3,5 milliards pour 350 000 familles qui ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros. Alors vous savez, si on leur en prend 15 sur 1000 milliards, ils ont encore de quoi voir venir. Et l'autre proposition, c'est de doubler l'impôt sur les bénéfices des multinationales, pas des PME, pas des TPE, des grandes multinationales, puisque le taux d'impôt sur les bénéfices avec le président de la République Macron pour ces multinationales, il a baissé, il est tombé à 25%. Je propose de le doubler au-dessus de 500 000 euros de bénéfices, 60% d'impôts, et ça fera rentrer tout de suite 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Vous voyez, 15 milliards d'ISF, 6 milliards d'impôts sur les bénéfices des multinationales, ça fait tout de suite 21 milliards dans les caisses de l'État pour répondre aux besoins de la population.
Alors ça, ce sont des projets pour la présidentielle. Il y a l'avenir beaucoup plus proche. Aujourd'hui même, vous allez avoir la main sur l'agenda de l'Assemblée nationale, enfin vous les communistes, c'est ce qu'on appelle une journée d'initiative parlementaire ou niche parlementaire. Vous allez donc présenter plusieurs propositions de loi, parmi lesquelles un texte visant à lutter contre, je cite, la banalisation des discours de haine dans le débat public. C'est clairement Éric Zemmour que vous visez par cette proposition de loi, que vous voulez rendre inéligible, c'est ça ?
Pas du tout, pas du tout. Moi, je ne veux rendre inéligible personne a priori. D'abord, cette résolution vise à rappeler que dans la République, chez nous, il y a des raisons qui peuvent rendre inéligible un responsable politique. La corruption, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds, ça rend inéligible. Mais aussi de tenir des propos racistes et antisémites. Il est inscrit dans la loi qu'il peut être prononcé une peine complémentaire d'inéligibilité. Cette résolution, elle ne fait que rappeler l'existence de cette loi. Et que comme le climat politique aujourd'hui est de plus en plus nauséabond, eh bien, il est bien de rappeler ce texte de loi pour que, à la veille des élections présidentielles, nous ayons un débat serein. Il y a beaucoup de différences entre nous. Entre la République en marche, la droite, la gauche, les communistes, beaucoup de différences entre nous. Mais que ces différences, eh bien, nous puissions les exprimer dans un cadre républicain. Oui à la différence, non à l'outrance. Voilà l'enjeu de cette résolution, et j'espère que l'ensemble des députés, y compris ceux de la majorité, soutiendront ce texte, le voteront, pour qu'on envoie un message clair. Ayons un débat entre nous, mais sans tenir de propos racistes et antisémites, car c'est interdit aujourd'hui par la loi.
Votre campagne, Fabien Roussel, est très centrée sur les questions sociales, sur le pouvoir d'achat, qui sont des sujets que les Français placent très haut dans leurs préoccupations. Pourquoi donc ne vous place-t-il pas plus haut dans les intentions de vote? Vous êtes à 2%.
D'abord parce que cela fait 15 ans que nous n'avons pas présenté de candidat à l'élection présidentielle et que je suis nouveau à gauche et que notre candidature est nouvelle à gauche. Et donc il faut pouvoir lui laisser le temps de s'installer, de pouvoir présenter notre projet à l'ensemble de nos concitoyens. Nous ne sommes pas à égalité aujourd'hui de temps de parole, de notoriété. C'est comme ça, c'est la vie. Il nous reste le temps de la campagne. Et donc j'espère pouvoir montrer la différence du projet que nous voulons porter, présenter aux Français. Mon pacte pour la France qui fait de l'emploi, du pouvoir d'achat une priorité, et de la jeunesse la deuxième priorité. Et donc nous voulons nous mettre l'argent, les richesses de notre pays au service du développement humain et de la planète.
Merci Fabien Roussel, bonne journée.
Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel avec Frédéric Rivière.